En janvier 1986, Karel Loprijs participait au volant d'un camion Tatra T815 pour la première fois de sa carrière à ce qui était encore appelé le Paris-Dakar. Sextuple vainqueur de l'épreuve, celui qui est depuis surnommé Monsieur Dakar a grandement contribué en l'espace de 17 participations à la popularisation du rallye auprès du public tchèque. 30 ans plus tard, ce parfait connaisseur de l'Afrique et du Sahara a repris la route en direction du Sénégal, parti du centre de Prague. Samedi, Karel Loprijs devrait arriver au lac Rose, qui était le lieu traditionnel de l'arrivée du Dakar le 10 février prochain. Mais cette fois, c'est avec une toute autre ambition que de faire la course que celui qui reste un des plus célèbres pilotes de camions au monde s'était lancé. C'est ce qu'a expliqué au micro de Guillaume Narguet, Yann Reinisch. Lui aussi amoureux du désert africain et passionné d'automobile, Yann Reinisch est accessoirement l'interprète du team Loprijs et de cette expédition baptisée Rêve de Dakar.
Sport en République tchèque.
Alors, l'objectif, surtout, c'est de fêter 30 ans de Karel Loprijs. C'est la première fois que Karel Loprijs a participé à Paris-Dakar avec son Tatra. Donc, l'idée, c'était de vraiment faire le même parcours comme Karel Loprijs il y a 30 ans. Mais vis-à-vis des complications, surtout au point de la sécurité dans la région, on a dû changer l'itinéraire.
Oui, parce que donc, on va le préciser, le parcours... En 1986, donc le rallye s'appelait Paris-Alger-Dakar, passé par l'Algérie, par le Niger, le Mali, le Burkina Faso, avant d'arriver au Sénégal. Or, pour vous, c'est un parcours qui est devenu, en raison de l'actualité et de la situation en Afrique, dans la région, voilà. Dans le centre de l'Afrique, impossible.
Voilà, on était en communication avec l'ambassade de l'Algérie ici. On a essayé de trouver la possibilité quand même de passer par Agadez, mais la frontière malheureusement avec Niger est fermée. Donc on avait une autre idée, et c'était de passer par la zone de Polisario. J'ai beaucoup communiqué là-dessus. L'idée c'était donc de passer par l'Algérie et descendre par Mauritanie. C'est une frontière qui est justement contrôlée par le Front Polisario, mais c'était très compliqué aussi. Donc, on n'a pas arrivé à trouver la permission pour passer par ce parcours-là. Donc, finalement, la seule possibilité en ce moment pour traverser le Sahara, mais c'est pas vraiment le vrai traversée de Sahara, parce que on prend donc la route qu'on appelle Western. C'est-à-dire par Marocco, la partie donc de Sahara,
le Sahara occidental,
le Sahara occidental, et après par Mauritanie. Donc Mauritanie, et on termine au Dakar. Après, donc le deuxième but aussi de cette voyage, c'est d'amener de l'aide humanitaire à deux orphelinats à Dakar. Et on va tourner un film documentaire justement sur Karel Loprijs et son premier rallye Paris-Dakar.
En tant que Tchèque, vous avez donc participé à cette expédition. Que représente le nom de Karel Loprijs et ce rallye Dakar?
Alors Karel Loprijs, c'est vraiment un nom qui, pour beaucoup de Tchèques, représente un héros, parce qu'on parlait de lui beaucoup, surtout dans la deuxième partie des années 80. C'était encore donc l'époque de communisme chez nous. Moi, j'avais de la chance, je me suis retrouvé justement en Algérie à cette époque-là. J'étais en Algérie jusqu'à 86. Donc j'étais à Alger quand Karel Loprijs sortait de bateau à partir de Marseille. Donc pour moi, c'est très touchant justement de pouvoir partir après 30 ans avec lui pour fêter son premier voyage. Et donc, c'est quelqu'un dont on a écouté beaucoup dans la radio. C'était avant la Révolution, mais même après la Révolution, parce qu'il était vraiment... c'était Monsieur le Dakar.
Comment expliquer que les autorités de l'époque en Tchécoslovaquie, les autorités communistes, aient autorisé la participation de Tatra, constructeur automobile Tatra, à une course, le Paris-Dakar, qui était... très, très occidental.
Alors, moi, je pense qu'il y avait surtout des raisons économiques, parce que Tatra était une voiture de vraiment très très bonne qualité, ce qui était approuvé justement plusieurs fois au Rallye Paris-Dakar. Et c'était un de nos articles importants de l'exportation. De Tatra, l'usine construisait pas seulement des voitures pour des raisons, disons, normaux, mais aussi militaires, ce qui était très important. Donc c'était un article, cette marque était aussi connue comme une marque militaire et République tchèque, à cette époque-là, était un des plus grands exportateurs des armes dans tout le monde entier. Et les armes, ça c'était pas seulement les armes pour tirer, mais c'était aussi des voitures et toutes les autres. Donc une des raisons importantes était surtout économique.
En 1986, s'est donc tenue la huitième édition de ce rallye Paris-Dakar. C'est une édition qui a été marquée par la mort de son fondateur, Thierry Sabine. On sait que pour Karel Loprijs, c'était un personnage important. Initialement, dans votre projet, vous teniez à lui rendre hommage. Ce n'est pas possible parce que ses cendres ont été dispersées dans le désert du Ténéré au Niger et que c'est donc un endroit par lequel vous ne pouvez pas passer. Néanmoins, que reste-t-il de cette volonté dans votre projet de rendre hommage à Thierry Sabine?
Alors, au début, on voulait choisir donc le parcours pour pouvoir passer par la région à Niger. Ça, ce n'est plus possible. Donc, on n'a pas vraiment sur le trajet un lieu qu'on pourrait lier à lui rendre l'hommage, même si ça reste toujours un de nos buts. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire où exactement et comment on va lui rendre hommage pendant notre trajet. On n'a pas prévu quelque chose de concret, mais il reste avec nous et on va penser à lui.
Vous y participez en tant que traducteur, qu'interprète. Que représente pour vous personnellement cette participation et puis cette expédition?
J'ai un grand rêve depuis mon enfance que j'ai passé en Algérie. Et parce que j'ai pas mal voyagé avec mes parents, avec la vieille Skoda 105 dans le Sahara algérien. On a fait pratiquement toute l'Algérie, la Tunisie, même Maroc aussi. Mais j'ai une ville qui, pour moi, reste toujours une ville un peu mythique, parce que je ne l'ai jamais visitée, c'est Tamanrasset. Et donc j'aimerais bien, mon rêve c'était, depuis mon enfance, c'est de traverser le Sahara, mais... Donc sur le trajet de l'ancien Paris-Dakar, donc par Tamanrasset et Agadez en Niger, je ne l'ai jamais fait. Et même cette fois-ci, je ne vais pas le faire. La dernière fois, je l'ai essayé avec mes amis. On est parti en 2005 avec une voiture des années 50. C'était un Volkswagen T1. On passait par Tunisie, par Libye, et par Libye, on a entré en Algérie, dans la région vraiment... de l'extrême du sud par Janet, et on a retourné en fait après au nord, et on a retourné avec la même voiture jusqu'à la République tchèque. Mais même cette fois, à cette époque-là, on voulait traverser, on avait déjà trouvé un ancien camion Tatra, mais finalement on était plusieurs dans l'équipe, on était 12. Après il y avait des gens qui ne pouvaient pas partir, on est resté 4. Donc finalement on n'a pas arrivé à le faire. J'ai pensé que cette fois-ci, je vais l'arriver, mais les conditions, surtout sécuritaires, ne nous le permettent pas. Donc, au moins, je vais traverser la partie de côte de l'ouest. Je vais faire la route occidentale, parce que la route qui m'attire le plus, c'est la route centrale, donc par Tamanrasset.
Vous évoquez vos souvenirs d'enfance avec cette voiture, la Skoda 105, dans laquelle vous voyagez dans le Sahara avec vos parents. Comment se déplace-t-on avec une telle voiture dans le Sahara? Parce que traverser le désert avec un camion Tatra, c'est une chose. Se déplacer avec une Skoda, c'est autre chose.
Alors, les Skoda 105, bien sûr, c'était pas prêtes pour... on ne pouvait pas vraiment naviguer dans la dune. Mais c'était quand même toujours une voiture qui était assez bien. Ce qui était une des choses, c'était que la traction est en arrière, ce qui permet mieux de naviguer, surtout ici en République tchèque. C'était pratique en hiver, mais on a découvert que même pour le sable et le fèche-fèche, ça passe mieux. C'est pas un 4x4. Donc vraiment, on peut pas s'aventurer comme avec des 4x4. Mais ça marchait assez bien. Mon père a dû faire quelques changements dans le moteur. Il a dû sortir surtout pour la contrôle de température parce que les Skoda se chauffaient trop. Il a dû avoir beaucoup des pièces détachables. Et on partait toujours en plusieurs voitures. On n'était pas tout seul, on était encore avec des amis pour pouvoir s'aider, etc. Mais c'était une époque qui est complètement différente par rapport à la nôtre. Maintenant, on a des navigations satellites. Avant, c'était vraiment juste la boussole, la carte et les informations des gens dans les régions.
Ce qui était la même chose d'ailleurs pour les participants
du
rallye à l'époque. Quoi.
Exactement. Oui. Ça change tout.
Voilà. Mais bon voyage alors, Yann Ranich, et merci.
Merci beaucoup. Merci.